9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Camille Thomas.
Bonjour.
Vous êtes violoncelliste, en passe de devenir une star mondiale, je dis ça à dessein. Au moment du confinement, vous deviez vous lancer dans une tournée mondiale sur tous les continents. Vous êtes jeune, 33 ans, vous êtes belge, franco-belge, c'est bien ça. Vous êtes surtout la première femme violoncelliste signée par le prestigieux label Deutsche Grammophon. Vous savez, c'est le petit rectangle jaune sur la pochette de disque qui veut dire que c'est sérieux et que le son va être énorme. Vous présentez Voice of Hope in Museum, c'est un projet artistique dans les musées confinés. On va en parler, c'est autour de votre dernier album qui s'appelle Voice of Hope, la voix de l'espoir, donc sur Deutsche Grammophon, je l'ai dit. C'est quoi l'idée de cet album ?
C'est un album que j'ai conçu il y a longtemps. En 2018, j'ai créé une œuvre du compositeur turc Fazil Say qui s'appelle Jamais renoncer, qu'il a écrit comme une réaction aux attentats du Bataclan. Et son message, c'était qu'il ne faut jamais renoncer en espoir, en l'homme et en la beauté. Et donc j'ai construit tout cet album autour de ça. Et il est sorti aujourd'hui dans un autre contexte et je suis très heureuse de voir que le message de l'espoir, de la musique, de l'art parle toujours, que c'est une réponse à la souffrance en général.
Et alors vous êtes soutenue puisque c'est le premier disque de musique classique, ai-je lu, réalisé en partenariat avec l'UNICEF, c'est bien ça ?
Oui, je suis très heureuse de ce partenariat. C'est important pour moi que cet album, ce ne soit pas que des notes et des mots, mais aussi un engagement réel. Et l'espoir, pour moi, c'est l'enfance et l'éducation. Et donc, c'était tout naturel de se tourner vers l'UNICEF.
Alors, il y a plusieurs titres, évidemment, dans cet album, comme dans tous les albums, mais plusieurs univers musicaux. On va vous entendre dans un titre qu'on a déjà entendu dans Philadelphia, dans Sur la route de Madison, dans Avengers 2, et même dans La cité de la peur, c'est Casta Diva, dans la Norma de Bellini. Arrangement pour violoncelle, évidemment, extrait. Quand on choisit sur son disque un morceau comme celui-ci, Camille Thomas, on se dit qu'on est certain de prendre un morceau qui plaît au plus grand nombre, ou on se dit que musicalement, on s'attaque à un monument qui a déjà été chanté par la Callas ou joué par Rostropovitch.
Alors tout d'abord, quand je choisis un morceau, c'est parce que je l'aime de tout mon cœur. Et ce morceau chanté par la Callas, ça a été une révélation quand j'étais adolescente. J'écoutais ça en boucle et je me disais, comment est-ce possible de créer quelque chose musicalement qui produise un tel effet, qui produise cette impression que son âme s'élargit et qu'on veut vivre plus grand, qu'on veut être meilleur. C'est l'effet démultiplicateur de la musique, pour moi, est vraiment là dans cet air. Et donc c'est un rêve.
Mais donc, ça ne vous a pas fait peur ? Parce que des fois, on a l'impression qu'on s'attaque à un monument.
C'est un challenge, parce que pour moi, c'est une des plus grandes pièces. Et je n'étais pas sûre que ça puisse sonner aussi bien au violoncelle qu'à la voix. Mais le violoncelle ressemble beaucoup à la voix humaine et moi j'essaye de chanter avec mon instrument et donc c'était un challenge que j'ai adoré essayer de remplir.
Alors cet album, c'est un album de classique comme je n'en connaissais pas, il mélange plusieurs genres, je l'ai dit, mais c'est vraiment le grand écart. Une fois n'est pas coutume, le plus facile est à la fin, alors que normalement on démarre par les morceaux faciles et ensuite on augmente la complexité. Les 8 premiers morceaux sont ardus, sombres, peu connus des néophytes. Ensuite, une mélodie très douce de Dvorak, la BO de Liszt de Schindler, des standards de l'opéra, je ne vais pas tout raconter. Et le cœur de l'album, je vais y venir, et c'est même le cœur de l'histoire de cet album, est signé Fazil Say, c'est un compositeur turc qui a directement composé pour vous, c'est bien ça ?
Oui, c'était la première fois qu'un compositeur donc contemporain écrivait une œuvre pour moi, et c'était merveilleux parce que j'ai pu assister à la naissance de l'œuvre, je suis allée à Istanbul, le travailler avec lui, puis on l'a créé à Paris en 2018. Et ça a été un moment d'émotion incroyable, la salle entière pleurait. Parce que cette œuvre, en fait, raconte le traumatisme des attentats. On le revit, mais la musique a ce pouvoir de catharsis, en fait, qui nous fait revivre, qui nous fait pleurer, qui nous fait revivre des traumatismes et qui nous permet de les dépasser. Il y a ce côté de l'art qui nous transcende et qui nous permet d'oser espérer, malgré tout.
Alors, le premier mouvement s'appelle « I never give up », »,« Je ne laisse jamais tomber », et effectivement, il faut s'accrocher. Thank you. entend aussi comme des tirs d'armes à feu, des rafales de mitrailleuses. C'est pas facile comme musique, mais ensuite, je rassure nos auditeurs, ensuite ça s'ouvre davantage et ça s'apaise. Et Fazil Say, c'est aussi un choix militant. J'ai regardé qui il était, c'est un pianiste, mais aussi en 2012, il avait déclaré qu'il était athée. Il s'était moqué sur Twitter d'un imam. Il a été poursuivi par la justice turque pour atteinte aux valeurs religieuses de l'islam. Un procureur a demandé contre lui jusqu'à 1 an et demi d'emprisonnement. Il a été condamné à 10 mois avec sursis. Finalement, il a été acquitté, mais quand même des tweets blasphématoires dans lesquels, j'ai trouvé ça sur Wikipédia, il comparait le paradis islamique à un bordel. C'est aussi un choix militant que de travailler avec lui.
Oui, c'est un compositeur, un artiste très engagé en Turquie. Il se bat contre l'obscurantisme et pour la liberté d'expression. Donc ce n'était pas un tweet contre la religion, mais pour la liberté d'expression.
Bien sûr. Engagé en Turquie, c'est un autre sens qu'être engagé en France.
Exactement. Et donc, il a eu des problèmes avec le gouvernement qui sont aujourd'hui apaisés. Mais c'est évidemment quelqu'un de très engagé. Je partage avec lui cette idée que l'art n'est pas un simple divertissement, que l'art a une portée bien plus grande et que c'est presque quelque chose de politique au-delà des mots, en fait, de s'engager dans une œuvre. Et never give up, ça va encore au-delà de la politique. C'est quelque chose d'humain. Je pense que l'art doit être humaniste. Et il défend cette idée qu'il ne faut jamais renoncer en l'homme et en la beauté. Une idée que je partage.
Je vous avais dit que Camille Thomas, cette violoncelliste, était un phénomène. Vous restez avec nous parce que c'est le portrait inattendu, très attendu d'Hélène Manarino qui arrive juste après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Camille Thomas, Voice of Hope, la voix de l'espoir. C'est un peu la voix de l'espoir qui arrive avec nous. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est l'heure du portrait inattendu et j'ai espoir que ce soit intéressant.
Ne commencez pas à me faire rire. Bonjour Camille Thomas. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Gagong, surnom que votre famille vous donnait petite, puisque vous vous déplacez que sur les fesses. Donc ça s'appelle Gagong. Eh oui.
Mais comment vous savez ça ?
Votre chambre, enfant, était une véritable chambre de princesse, liée à baldaquin, porte-bijoux, robe. Alors je vous propose d'entrer ce matin dans votre monde féerique et merveilleux. Notre conte commence depuis votre enfance. Il était une fois une petite fille nommée Camille, heureuse de jouer au petit malin avec sa grande sœur. Jamais sans son énorme chien en peluche, que vous avez toujours d'ailleurs. Gourmande, émerveillée par les notes, la musique depuis toute petite, avec cette berceuse qui vous a tout de suite fait rêver. De Brahms, évidemment. La magie opérée pour vous dès l'âge de 4 ans avec Monsieur Burgos, votre premier professeur de violoncelle. Vous deviez commencer par 15 minutes de cours, mais très vite, ça durait plus d'une heure. Bercé au rythme des chansons des artistes préférés de vos parents, Brel, Barbara, Piaf, mais aussi Nina Simone, vous partiez chaque été en vacances, en voiture, rien n'était planifié. Votre papa avait l'habitude de dire « Allez hop, on part demain ». Et c'était parti, tout le monde dans le combi Volkswagen bleu, que vous nommiez Totorine pour la grande aventure.
On imagine Scooby-Doo, je le vois trop le combi Volkswagen.
Il fallait surtout caser votre violoncelle dans le coffre, Camille, évidemment. Vous ne saviez pas où vous alliez dormir, parfois c'était dans la voiture, et vous aviez l'habitude de casser une corde de votre violoncelle sur le premier lieu de vacances, sauf que c'était au milieu de rien, donc c'était très compliqué pour vous de trouver. Alors Camille, votre royaume familial a toujours été très précieux, du rituel du dimanche soir, c'est-à-dire déplacer la télé dans le salon, installer des couettes et regarder la télé.
C'est incroyable.
Elle n'en revient pas. Ça vous laisse sans voix.
Je vais avoir une petite larme.
Rituel que vous avez gardé d'ailleurs. À vos constructions de cabanes chez vos grands-parents à l'Est dans les Ardennes belges, en passant par vos déjeuners avec votre grand-mère que vous appeliez Bonne Mamie. Votre source d'inspiration, la musique, tout était organisé pour cela. Cours le matin et musique l'après-midi. Pour vos parents, l'école, ça passait après, il faut le dire. Votre maman acceptait même que vous séchiez les cours pour le violoncelle. Votre papa vous faisait faire vos devoirs le matin même, sur le chemin de l'école, dans la voiture. Vos émotions ont toujours été très fortes grâce à la musique. D'ailleurs, votre premier gros chagrin, c'est quand vous êtes allé voir un spectacle de musique classique. Vous aviez pleuré car les violoncelles jouaient moins que les violons.
Non, c'est vrai?
Ah oui.
C'est magnifique.
Mais ma maman m'a répondu que les violoncelles, c'était la racine, c'était l'arbre de l'orchestre. Donc ça vous a consolé.
Entière passionnée, vous vous laissiez guider finalement. Quand votre maman vous disait « je t'emmène voir un spectacle drôle », vous riez avant même que le spectacle commençait, car vous saviez que ça allait être drôle. Mais vous êtes comme ça, Camille Thomas, enjouée, joyeuse, surtout quand il s'agit d'imiter un célèbre groupe au collège avec vos copines.
Ça, j'ai reconnu.
Les Spice Girls, évidemment, qui ne l'a pas fait?
Moi, je ne l'ai pas
oui,
fait.
C'est vrai. La musique, oui, mais pas la danse. D'ailleurs, petite, lors d'un spectacle de fin d'année, vos parents étaient venus vous voir, très fiers de voir leur fille danser, sauf que dans le spectacle, vous traversiez une fois la scène. C'est tout. Aventure épique, parfois, comme à la maîtrise de Radio France, où vous avez fait tomber le piano pendant un cache-cache.
Non, et comment oui. C'est possible? Vous ne me raconterez pas comment on fait tomber un piano, j'aimerais bien savoir.
Ou quand vous êtes parti à Berlin avec votre maman, vous êtes parti en train et votre papa a mis du temps à prendre les billets et vous lui disiez « il n'y aura plus de place ». Il vous répondait « ne t'inquiète pas, quand le train est plein, il rajoute des wagons ». Alors Camille Thomas, parlons des choses qui vous enchantent, votre monde aujourd'hui, vos exercices de respiration, le fait de dormir, la fenêtre ouverte, évidemment.
Non.
Vous mangez également de tout, les crêpes, oui, vous cuisinez aussi très très vite. Alors Camille Thomas, la beauté du monde vous inspire, vous aimez prendre de la hauteur, admirer, vous voyagez souvent en faisant vos valises au dernier moment, en oubliant toujours plein de choses, en oubliant aussi des choses dans l'hôtel. Vous avez même oublié un jour votre valise dans les toilettes de l'aéroport. Et oui, vous avez appelé l'équipage, ils vous ont dit « votre valise reste là, vous la récupérez à votre retour », c'est ce que vous avez fait. Et vous avez dû tout acheter sur place, évidemment. C'est un petit peu folklore avec vous. Alors Camille Thomas, vous aimez parfois poser vos valises, évidemment, mais être surtout près des vôtres. Il faut dire que oui, votre famille vous manque quand vous êtes en déplacement. Enchanter la vie de votre entourage, vous aimez ça, comme les faire rire avec ce nouveau jeu, remplacer la première lettre de chaque mot par la lettre « N ». Compliqué.
Moi, ça me fait rire.
Je ne finirai pas.
Je conseille
d'essayer, franchement.
On fera des essais.
Je ne finirai pas ce portrait comme ça. Camille Thomas, la magie a opéré dans votre vie. Un destin tout tracé, merveilleux, féerique, qui enchante celles et ceux qui vous écoutent.
Merci beaucoup, Nélène Nanarino.
Merci, Noku. Merci, Noku, Nilit Nandel.
Ouais, voilà. Pas mal. Nilip. Nilip.
Ça m'a énormément de lue.
Vous étiez très très ému. Merci beaucoup. Hein, vous avez la petite larme.
Ah oui, non, mais je m'y attendais pas du tout.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les récits?
Je crois que l'optimisme dont on rajoute les wagons, c'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré. Oui.
C'est et tellement beau.
Le vraiment... piano, j'avais oublié, c'était ma plus grosse bêtise.
Mais
j'ai
peut...
eu un conseil de discipline pour ça, j'ai failli être expulsée.
Mais comment on peut faire tomber un piano? C'est parce qu'il avait des roulettes et vous l'avez poussé, il est tombé?
Non, mais on jouait, c'était une salle de permanence et au lieu de travailler, on jouait. Donc on avait construit une petite maison derrière le piano et il gênait, donc on l'a poussé, mais par le haut. Donc il est tombé. Mais si quelqu'un était sous le piano, il aurait quand même passé un mauvais moment, donc ça avait été une histoire assez sérieuse.
Heureusement, personne n'était sous le piano, c'était la pause. Merci Hélène Manarino, on vous retrouve demain. Avec ce H et ce M en début de votre nom. Dans un instant, notre premier indispensable, on va aller musique, ça sera du blues, rock, créole. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Camille Thomas, violoncelliste, il y a un album qui est sorti qui s'appelle Voice of Hope et il y a aussi une sorte d'opération, Voice of Hope in Museum, projet artistique dans les musées confinés. Si j'ai bien compris, tout a commencé sur les toits de Paris, c'est bien ça?
Oui. En mars dernier, j'étais donc confinée chez moi et puis monter sur le toit, c'était ce qui me faisait du bien. J'ai toujours été attirée par les toits. Il paraît qu'on appelle ça être stégophile. Donc.
Ouais.
Et c'était mon refuge, se sentir au-dessus de la ville, avoir un peu de perspective et puis être plus proche du ciel.
Ouais.
Un soir, j'ai voulu partager ça en fait avec mes voisins d'abord, j'habitais juste à côté de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et aussi il y avait ce moment très fort où toutes les solitudes se rassemblaient à 8h pour applaudir les soignants. Et donc c'est pour eux que j'ai joué, pour mes voisins. Et puis j'ai posté cette vidéo sur internet et elle a été vue des millions de fois dans le monde entier. Les gens m'écrivaient que voir ces images, entendre ces musiques, ça leur faisait du bien.
C'est la vidéo dans laquelle vous êtes en rose?
Alors celle-ci, je l'ai faite ensuite.
Parce qu'après, elle est en rose et elle joue La vie en rose.
Thank you.
Cette vidéo également, La vie en rose, a fait le tour du monde. On la retrouve même sur la chaîne YouTube de Stella McCartney, qui compte plus de 17 millions d'abonnés dans le monde. Juste un mot, parce qu'on va en parler, mais vous avez un Stradivarius qui est célèbre dans le monde entier, hors de prix. On a le droit de monter sur les toits avec un instrument de ce prix, si j'ose dire. Que dit l'assurance?
Alors, j'avais vérifié avant, j'ai le droit de jouer en plein air. Et puis, je n'aurais jamais pris le moindre risque pour cet instrument qui est comme mon propre enfant. C'est une partie de moi-même et je l'aime plus que tout. Donc, je savais qu'il n'y avait aucun risque. Le toit a l'air plus dangereux qu'il ne l'est.
D'accord. Donc, tout ça était légal. Et ensuite, vous êtes allé jouer dans des musées parisiens.
Voilà. Dès le mois de mars, je bouillonnais chez moi. Cette inactivité, le fait de ne pas partager la musique avec le public, ça me désespérait en fait. Travailler seul chez soi, c'est bien, se préparer, c'est bien, mais s'il n'y a pas le moment du partage, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que j'ai commencé à jouer sur mon toit et puis j'ai voulu essayer d'apporter un peu d'espoir en montrant que les musées, que l'art était là, que l'art nous attendait et que l'art pouvait nous sauver, nous guérir. Et donc c'est comme ça, dès que ça a été possible au mois de juin, que je suis descendue de mon toit et que je suis allée jouer dans des musées vides.
On va parler dans quel musée vous êtes allée. Je me tourne vers Angèle Châtelier, bonjour.
Bonjour, je peux un peu spoiler parce que j'avais vu Camille Thomas au musée des arts décoratifs. Ouais. J'avais la chance de pouvoir l'accompagner. Voilà. Donc il y a notamment celui-là. Mais bonjour Philippe.
Bonjour, mais là c'est pas du tout du violoncelle dont vous allez parler. Là, qu'est-ce qu'on allume le barbecue, on se prend une bière et on va écouter du rock blues. C'est le groupe Delgrès, c'est bien ça.
C'est ça, on va les écouter préparer les barbecues. Cette chanson blues rock lumineuse au texte créole est un extrait donc du deuxième album du trio Delgrès qui vient de sortir. Philippe, on va s'attarder sur ce nouvel album, mais d'abord, je me dois de revenir sur ce nom de groupe Delgrès pour comprendre combien Delgrès sont des musiciens profondément humains, font une musique généreuse.
Alors allez-y, on vous écoute.
Merci Philippe. Delgrès, c'est un hommage au colonel d'infanterie Louis Delgrès, devenu figure de la Martinique pour ses combats contre l'esclavage. Pascal Danaé, chanteur et parolier du groupe Delgrès, l'a découvert grâce à son père. C'est une histoire de famille et il fait aujourd'hui partie de son histoire, comme vous allez l'entendre.
Un jour, il a évoqué le nom de ce Louis Delgrès, donc s'est battu contre le rétablissement de l'esclavage et qui a préféré mourir plutôt que de se rendre. Bien des années plus tard, j'y ai pensé parce que, moi, à titre personnel, j'étais, en tant qu'antillais en France, encore à me poser un peu des questions voilà, sur notre place dans cette société française à laquelle on appartient depuis longtemps. Mais finalement, avec cette distance géographique, il y a quand même bel et bien des différences. Et des fois, c'est pas toujours facile de vraiment trouver sa place. Donc, Louis Delgrès, pour moi, c'était vraiment le besoin de me tourner comme ça vers un passé antillais glorieux, en quelque sorte, de combattants aussi, des gens qui ont lutté contre l'esclavage. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui ne le connaissaient pas et que moi-même, j'en avais entendu parler tard dans ma vie, j'ai eu envie d'écrire des chansons pour lui, pour raconter son histoire. Et puis que, bah, du coup, à travers l'existence du groupe Delgrès, eh bien, on redécouvre aussi Louis Delgrès, le héros de 1802.
Donc Louis Delgrès figure martiniquaise et guadeloupéenne. Alors voilà, Philippe, maintenant que l'on sait ça du groupe Delgrès, on peut s'attarder sur ce nouvel album terriblement empathique, bienveillant, mais aussi engagé, furieux. Un album qui s'appelle Fort et Aime, comprenez ? 4h du matin,
ouais,
c'est l'heure où les fêtards croisent certains travailleurs dans les transports notamment, et surtout ces travailleurs, c'est ceux qui font le pays pour Pascal Danaé, ceux qui sont essentiels, et c'est à eux qu'il a voulu rendre hommage à travers cet album.
On évoque à travers ça des héros invisibles, c'est-à-dire que ce sont des gens qui nous permettent de continuer à vivre sans qu'on s'en rende compte. Mais où ça, la ville a pas compris. Et c'est étrange parce que, évidemment, les circonstances actuelles, ce qui nous est tombé dessus avec le Covid, a mis ça en lumière énormément. D'un seul coup, on s'est rendu compte que, ben oui, on a super besoin des éboueurs, ben oui, on a super besoin des profs, ben oui, on a super besoin de tous ces gens qui sont finalement pas très très bien payés, alors qu'ils ont des fonctions essentielles dans notre société. Et dans cet album-là, à travers le prisme de mes expériences familiales, de ce qui s'est passé, comme mon père a dû quitter la Guadeloupe, ma mère est restée derrière, elle est arrivée 4 ans derrière. Donc ça a été quand même une fracture familiale assez importante. À travers ce prisme-là, eh bien, on va raconter comme ça l'histoire de toutes ces personnes autour de nous, ces petites gens qui vont pas faire la une des journaux, mais qui permettent à la société de fonctionner, ou simplement à une autre personne de continuer à fonctionner. Dis-moi ça qui est passé, dis-moi la vérité, dis-moi ça qui est passé dans la cour. Par exemple, une chanson comme « Ces mots-là » qui parle d'une gamine qui arrive là et qui fait face à l'intolérance des autres enfants, l'esclavage moderne, des choses comme ça, ce genre de thème. Le fait de pouvoir jouer ces chansons en public et de les partager avec les gens, ça permet simplement de rallumer des petites lumières comme ça sur des choses qui existent, mais de raviver la mémoire et de dire voilà, n'oublions pas ce qui se passe autour de nous, n'oublions pas les humains.
Alors comme il le dit, j'imagine, Angèle, que cet album n'oublie pas les humains.
Non, ni les exilés, ni les déracinés, ni les paumés, ni ceux que l'on invisibilise. Et dans ses textes, Pascal Danaé ne s'oublie pas non plus, voire même se confie profondément, il me l'a dit. Cet album a été comme une thérapie où il se remémorait son passé, son histoire, ses conversations avec son père, ses racines. Alors ça donne un album rock, oui, mais pas toujours. En bref, il est d'une profonde beauté. Parti au ciel, qui a fait crasser les mamans, qui a fait crasser les...
Camille Thomas, lui non plus, laisse pas tomber. Réaction à ce qu'on vient d'entendre?
Ben, merci beaucoup pour cette découverte, ça me donne très
avec
envie d'écouter cet album.
Ouais.
Et ça me touche beaucoup que ce soit de la musique si engagée et aussi le fait que la musique est universelle en fait. Et avec ce langage, elle peut parler à tous et de tout.
Et essentiel.
Voilà. Et j'ajoute, Angèle, merci beaucoup pour cette découverte. Moi
avec,
aussi, je découvre
plaisir.
Et je vais aller écouter le disque. On entend un titre maintenant,
oui,
qu'on entend?
Mais j'espère que ça va vous plaire, oui. Philippe. Voici donc Delgrès avec un extrait de leur nouvel album. C'est le titre Aléa sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
c'est moi qui a mandé. Qui j'en m'a fait pour continuer. Dis mon nom, moi qui a gardé moi. Mais vous laissez moi pour aller.
Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez.
Laissez-moi pour aller.
Aléa, c'était Delgrès sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Marjorie Adelson qui va nous conseiller deux films à voir en famille pendant les vacances scolaires. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la violoncelliste Camille Thomas, Voice of Hope, c'est votre nouvel album sur Deutsche Grammophon. Il y a des vidéos absolument somptueuses tournées dans des musées confinés. C'est votre projet artistique estampillé Deutsche Grammophon. On va parler de belles images avec vous, Marjorie Adelson, mais pas seulement. Bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On va même parler de cinéma, c'est les vacances. Vous avez pensé aux enfants. Vous nous conseillez deux films. D'abord, un film d'animation qui vient de sortir en DVD. Ça s'appelle Calamity, une enfance de Martha Jens Canary.
Et oui, je vous emmène dans le Grand Ouest américain. Alors, on connaît tous Calamity Jane, cette célèbre cowgirl, mais on ne sait pas grand-chose de son enfance. Le réalisateur Rémi Chaillet l'a donc imaginé. On est en 1863, au milieu d'un convoi de roulottes qui se dirige vers l'ouest. Parmi eux, Martha Jane, 11 ans. Elle ne s'appelle pas encore Calamity. Alors, elle est avec son papa, son frère et sa sœur et elle ne rêve que d'une chose, monter à cheval, faire du lasso et se battre. Sauf qu'évidemment, le chef du groupe ne voit pas ça d'un bon œil.
Encore toi, crasseuse ! Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ? Mais quelle calamité ! Canary ! T'as intérêt à tenir ta fille. Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté.
Oula.
Voilà, donc on est très loin des princesses Disney. Le film défend le droit d'être une fille et d'être brusque. Très vite, Calamity est accusée de vol. Elle va donc s'enfuir pour prouver son innocence. Et c'est là que ça devient palpitant. On rentre dans un western féministe. Calamity galope à toute vitesse sur son cheval. Elle piège les shérifs, elle traque les voleurs. Bref, elle découvre la liberté. Et puis derrière ces aventures, le film aborde avec beaucoup de pédagogie la question du genre et la place des femmes dans la société.
C'est quoi cette tenue ? T'es folle ? Tu ne peux pas mettre un pantalon ! Ça ne se fait pas !
C'est quoi le problème ?
Tu fais exprès ou quoi ? T'es une fille, les filles c'est en jupe !
Vous voulez essayer ?
Ça va pas, non ? Déjà si ma mère me voit avec toi habillée comme ça, elle me tue ! Elle a raison, t'es complètement folle !
Voilà, c'est drôle, fin. Le film a d'ailleurs remporté le Grand Prix du Festival d'Annecy qui récompense chaque année les meilleurs films d'animation. C'est largement mérité, le graphisme est magnifique, chaque plan ressemble à un tableau. Bref, pendant 1h22, on a la rétine qui s'excite. C'est un film à voir en famille et puis éviter si possible les tablettes.
Alors on va quitter les États-Unis pour le Japon avec un film disponible sur arte.tv. Il s'appelle L'été de Kikujiro.
Oui, c'est un film qui est sorti en 99. À l'époque, il avait été sélectionné au Festival de Cannes. C'est donc l'occasion de revoir ce chef-d'œuvre. Alors Masao est un petit garçon de 8 ans, il traîne un peu des pieds, il a l'air toujours triste et avec raison. C'est les vacances d'été et il est tout seul à Tokyo. Ses copains ont quitté la ville, sa grand-mère travaille tout le temps. Masao décide alors de partir en voyage pour retrouver sa maman qu'il ne connaît pas. C'est Kikujiro, un ancien gangster un peu bourru qui va l'accompagner. Ensemble, ils vont traverser une partie du Japon en stop.
David demandait au camion là-bas.
Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous emmener à Toyohashi ?
Je regrette, mon petit, mais je vais dans l'autre direction.
Ça n'a pas marché.
Ce qui va pas, c'est ta tête. On va arranger ça. Faut que t'aies l'air plus malheureux. Ouais, ça c'est mieux. Je crois que comme ça, ça va marcher. Tiens, regarde là-bas. Voilà du monde qui arrive.
Le petit garçon qui double, il a un bon accent japonais. Hein.
Oui, un bon accent japonais, très français. Bon, évidemment,
non, il prononçait bien les noms. Non, je disais ça sans ironie.
Les noms, c'est vrai. Donc voilà, on l'entend, c'est vraiment un petit bijou de poésie. Kikujiro, le gangster, va évidemment se reconnaître dans cet enfant abandonné. Il va inventer des jeux et tout faire pour lui redonner le sourire, quitte à risquer sa vie. Ce qui est original, c'est qu'on est entre Pulp Fiction de Tarantino et The Kid de Charlie Chaplin. Au fil de leur road trip, on découvre un Japon bucolique et pauvre, assez peu montré au final au cinéma. Le tout servi par une bande originale qui appelle à la mélancolie. Grâce à cette musique qui reste bien en tête, mais aussi ses plans d'ensemble majestueux. Le réalisateur Kitano nous envoie comme ça des effluves de bonheur. C'est toujours bon à prendre. C'est un film délicat sur l'enfance, à voir sur Arte TV, l'été de Kikou Giraud.
Voilà, notre chef Antoine Janton m'a dit le compositeur, c'est Joe Hisaishi, grand compositeur de musique. Réaction Camille Thomas, un film vous a plu, les deux, aucun?
Les deux. Et ça m'a fait penser à un film d'animation japonais, Le Tombeau des Lucioles.
Oui, qui était sorti en 98.
Merveilleux. Et qui est très triste, mais qui je pense, a cette même de tonalité.
Il est très triste et on vous le conseille en cette période joyeuse de confinement. Merci pour ce message d'espoir. Mais non, je plaisante, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Marjorie Adelson, merci d'avoir été avec nous. La dernière partie de Culture Média, c'est juste après ça. Nous sommes toujours avec Camille Thomas. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de la violoncelliste Camille Thomas, votre dernier album s'appelle Voice of Hope et Voice of Hope in Museum, c'est votre projet artistique dans les musées confinés parisiens autour de votre dernier album. On vous voit en train de jouer des vidéos d'une très 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 belle facture, c'est très bien filmé, très bien éclairé, j'ose pas dire que c'est très bien joué également. C'est estampillé Deutsche Grammophon. Dans quel musée parisien êtes-vous allé tourner ?
Alors à Paris, j'ai tourné avec le réalisateur Martin Mirabel. C'est un projet vraiment qu'on a fait à deux. Lui, sa caméra, moi, mon violoncelle. Et on est allé au Musée des Arts Décoratifs, au Grand Palais, à l'Institut de France.
À l'Institut du Monde Arabe aussi.
À l'Institut du Monde Arabe. C'était très fort de jouer là-bas une pièce de Ravel, un compositeur catholique, dans une pièce juive, une prière juive, dans ce lieu dédié à la culture arabe. C'était pour moi un symbole très fort. Et puis aussi...
Et à Versailles.
Au Louvre, ouais. Évidemment, et au château de Versailles. J'ai fait deux vidéos là-bas, une dans la Galerie des Glaces, le Salon de la Paix, le Salon d'Hercule, mais aussi une assez incroyable dans le petit théâtre de la Reine de Marie-Antoinette, qui est un lieu qui n'est pas ouvert au public parce que les machineries sont encore de l'époque de Marie-Antoinette. Et donc pendant qu'on jouait, des mécaniciens du théâtre actionnaient les décors à la main, ces décors peints en bois. C'était un moment historique où ce théâtre a un peu... revécu. Ouais. J'avais l'impression d'avoir Marie-Antoinette qui nous écoutait.
Je le cite de mémoire parce que j'ai pas les notes de pochette. C'est pas une pièce de Ravel qui ouvre votre album ?
Exactement, c'est le Kaddish de Ravel.
Exactement, qui ouvre cet album et que vous avez joué à l'Institut du Monde Arabe. Cet album se termine sur un tube, si j'ose dire, avec une grande orchestration. Nabucco de Verdi, on y va, on en écoute quelques notes et on en parle. Italien vaut mon japonais, va pensiero, dans Nabucco de Verdi. Comment vous avez travaillé pour les adaptations pour violoncelle ? Elles préexistaient ou elles ont été écrites pour vous ?
Alors la plupart du temps, je joue tout simplement la voix du chanteur, exactement la même chose. Et puis, et l'orchestre joue la même chose qu'avec des chanteurs. Donc c'est pas quelque chose qui est très déformé ou travaillé. Et finir avec Va pensiero, c'était vraiment finir sur une note d'espoir. C'est le moment de la libération des esclaves dans l'opéra de Verdi. Et c'est aussi presque l'hymne national italien. Et j'ai cette image de tous ces Italiens qui chantent ça en chœur. Voilà, c'est une œuvre qui est pleine de soleil.
On n'a pas parlé de l'orchestre, c'est lequel et comment vous l'avez choisi ? C'est vous qui l'avez choisi ou c'est le label ?
C'est moi, c'est le Bruxelles Philharmonique et j'ai joué avec eux. Cet orchestre était dirigé par Mathieu Herzog, un grand ami et merveilleux chef d'orchestre, et Stéphane Deneuve qui a dirigé le concerto de Fasilsay. Moi je suis belge d'origine, mes parents sont belges et j'ai une immense tendresse pour ce pays, et le Bruxelles Philharmonique Orchestra est un orchestre merveilleux qui est notamment très connu pour avoir enregistré beaucoup de musique de films.
On parlait des concerts. Pourquoi j'en parle ? Parce que quand on va sur votre site, qui est d'ailleurs très bien fait, je le précise, camillethomas.com.
Fait par ma sœur.
Ah, on salue toute la famille. La sœur violoniste ?
Exactement.
Il y a des dates, et certaines dates sont annulées, certaines dates sont maintenues. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce que vous allez faire ?
Alors j'ai eu la chance d'être quand même occupée malgré tout à l'étranger. J'étais par exemple le mois dernier en Corée où j'ai dû faire une quarantaine de 14 jours pour pouvoir faire deux concerts, mais deux concerts avec du public. Et ouais. Ça n'avait aucun prix.
Combien de personnes ?
1000 personnes, voilà, pour une salle de 2000 personnes.
Comment s'est passée la quarantaine? Juste un mot d'actualité, parce qu'en Corée, c'est vraiment très, très, très sévère.
Oui, c'était une quarantaine très stricte, puisqu'à l'arrivée à l'aéroport, le gouvernement dispatche de manière aléatoire les personnes dans des chambres. Chambres dont on ne peut pas sortir pendant 14 jours. Donc des plateaux repas sont apportés 3 fois par jour.
Pardonnez-moi, c'est ce qu'il faut? C'est trop sévère? On est aussi une radio d'actu ici à Europe 1. C'est ce qu'il faut?
Ah bah, c'est sûr que là-bas, la vie est presque normale et qu'ils sont très peu de cas.
J'ai regardé les chiffres ce matin. En France, nous, on a eu 39 000 nouveaux cas positifs en 24 heures. 39 000 et en Corée, 440. Ceci oui. explique peut-être cela. Et ensuite, la suite des concerts. Alors, Hong Kong, c'est annulé. Dublin, c'est annulé. Mais il y a des concerts qui vont se faire à Innsbruck, à Magdebourg. Vous allez les faire ou on ne sait pas trop? En Pologne, à Istanbul?
Cela, j'espère les faire encore. J'ai pas encore mis le petit cancelled à côté de la date qui me crève le cœur à chaque fois. Voilà, mais je vis dans l'espoir et c'est le mois prochain, donc on verra. Il y a beaucoup de concerts qui sont en live stream. C'est un peu notre lot aujourd'hui. C'est sans public, mais c'est filmé et diffusé sur Internet. Donc c'est une manière de continuer à jouer quand même.
Un dernier mot, j'aurais parlé de votre instrument qui est un Stradivarius de 1730. C'est bien ça?
Oui.
Il a un nom, je vous le laisse le dire.
C'est le Stradivarius Feuermann. C'est un des violoncelles les plus connus, les plus précieux du monde. Il a été joué par des légendes et notamment par Auguste Franchomme, qui était le meilleur ami de Chopin. Donc ce violoncelle a joué avec Frédéric Chopin et c'est pour moi une émotion immense d'avoir l'honneur de pouvoir.
Et maintenant, il monte sur les toits du 13e et vous dites que vous n'en revenez toujours pas de l'avoir avec vous. Vous racontez que le matin, quand vous réveillez, vous allez le regarder dans sa boîte. Vraiment, vous l'avez fait ce matin?
Ce matin, j'ai pas eu le temps, je me suis levée trop tôt. Ouais. Mais je vais le faire dès que je rentre à la maison. Non, en plus, il est d'une beauté à couper le souffle. L'instrument que Stradivarius a fait la même année que lui est exposé au Met à New York. Donc c'est aussi des instruments qui sont merveilleux pour les yeux.
J'ai compris. Et donc, du coup, si j'ai bien compris, ce matin, vous l'avez laissé dormir. On va se quitter sur Don Giovanni. Camille Thomas au violoncelle. Donc je rappelle, on peut retrouver ce titre et beaucoup d'autres évidemment dans votre dernier album Voice of Hope. On peut aussi acheter sur votre site qui est très bien fait par votre sœur violoniste. Elle a tous les talents, dites donc. Et je rappelle, Voice of Hope in Museums, on peut voir ça, ce projet artistique sur votre site internet. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Merci de cette rencontre.
Merci à vous.
Nous on se retrouve demain évidemment à 9h pour Culture Média. On va parler de M comme maison. C'est le nouveau programme d'écho de C8. Nous sommes avec son présentateur Stéphane Thébault. Vous allez me dire, il était sur la 5. Oui, il est passé sur la 8. Et on sera avec un des patrons de la chaîne C8, Franck Apieto, qui a réussi ce transfert. Et puis l'agent de cinéma le plus connu de France, Dominique Besnéard, il va nous parler de son livre Art Média, une histoire du cinéma français, co-signé avec la journaliste Nejma Van Egmond. Et je vous rappelle ce scoop que nous a raconté le patron de Studio Media One. Il y aura donc une 5e saison de 10%. Et même Camille Thomas, comme moi, en est ravi. Merci d'avoir été avec nous. Il y a le Flash, il est déjà là, Christophe Lamarre. Puis c'est Anne Romanoff, ça fait du bien, je vous dis à demain.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.